Seulement, plus personne n'y comprend rien, tellement c'est réduit. Il y a encore du sujet, c'est très réduit. C'est pas encore de l'informatique, c'est encore des maths. Mais, c'est ça le formalisme. Eh bien, vous voyez, le formalisme, par exemple, regardez, si vous reprochez à la logique Hilbert, à son programme finitiste pour faire critiquer les mathématiques, d'être formaliste et de reposer sur une mathématique finie. Il dit, on va faire une métamathématique finie des mathématiques qui traitent de l'infini. Il ne faut pas faire de l'infini dans le métalangage, Hilbert, pour se garder. Et finalement, il est réductionniste, pourquoi? Parce que sa logique finie, elle va être tellement finie, finalement, qu'elle est binaire. Alors, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez apparaître le logique intuitionniste de Haiti, un élève de Brouwer, qui fait une logique trivalente. Et il y a certains qui critiquent Lukasiewicz, qui disent que c'est Lukasiewicz qui s'est trompé. Non, Lukasiewicz, il cherche autre chose, mais il le cherche dans Aristote. Il se pose la question, est-ce que c'est 2, 3, 4, 5, 6 valeurs, ou est-ce que c'est 2 ou 4? Bon, ça c'est un débat sur lequel je pourrais revenir. Mais toujours est-il que les formalistes, le problème qu'ils ont, leur réductionnisme, il n'est pas seulement d'être binariste, d'être binaire. Faites bien attention. Ils sont aussi entraînés que n'importe quel sujet qui parle par le fait d'énonciation. Et leur binarisme, il est pris dans une aliénation. La bourse ou la vie. Bon, ça ne s'appelle pas la bourse, ça s'appelle pas la vie, ça s'appelle le vrai ou le faux. Le vrai ou le faux. Et comme la fonction phallique et la loi de la parole, c'est toujours vrai, ben même en mathématiques, qui est de l'écriture, qui n'est pas de la parole, il y a un effet de sujet, il y a un effet de phallus, il y a une aliénation. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle ça, le veil de l'aliénation, il est dans ma page, pas sur Internet. Le veil de l'aliénation, j'explique qu'entre vrai et faux, c'est tout à fait différent qu'entre affirmation et négation. Vous voyez, déjà, on dirige vers un terme. Mais vrai et faux, ça marche comme la bourse ou la vie. Lacan, c'est un champion du monde de la logique. Hein. Il a réussi à construire un exemple synthétique d'une structure aliénante qui, dans la logique, est a priori et analytique. Le vrai et le faux, l'impératif de la parole, tu dois dire la vérité, tu ne dois pas mentir. Vous voyez, lisez le texte qui est très faible de Kant, sur le soi-disant, le supposé droit de mentir. Vous trouvez ça chez moi, hein? Ça marche avec le théorie. Ces deux textes de Kant qui sont publiés en ce moment. Le supposé droit de mentir, Kant, il est faible. Hein? Il a raison contre Benjamin Constant. Il a raison de dire Benjamin Constant, le philosophe français, comme il l'appelle, il veut mettre des amendements. On n'a pas le droit de mentir, mais comme on est obligé de mentir, alors il faut bien mentir un peu de temps en temps, donc il faut apporter des amendements au principe de la pensée. C'est complètement con. C'est stupide, c'est un arabesquement idiot, ça. Pourquoi mettre des amendements? Je veux dire que c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus chiant, parce que c'est beaucoup plus amusant, de se dire, non, on n'a pas le droit de mentir, qu'est-ce que vous faites de ça? Vous voyez, même les arguments de Kant sont très faibles. Hein, il dit, moi, je mens pas, regardez, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai un copain qui s'est caché chez moi et il y a des types qui veulent me tuer. Il est caché dans la maison. Je sors dans la rue, les mecs qui me poursuivent, ils viennent et ils me disent, alors ton copain, il est chez toi, là, machin, on cherche. Moi je sais qu'ils veulent me tuer, ils veulent me casser la gueule, puis ils vont me tuer. Alors, est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas? Vous voyez, un peu ridicule, il y a quoi? C'est comme dans Kant avec ça, dans l'accord, il écrit sur le fait d'avoir un dépôt chez quelqu'un, hein, parce qu'on fait confiance à celui à qui on confie son argent. Et il pose la question, là, quand il montre que Kant, c'est complètement stupide, c'est une pensée de bourgeois. Alors là, le type, Kant, il est là, il est devant les méchants qui veulent tuer son copain, il est là, est-ce que je leur mens ou est-ce que je leur mens pas? Oui, les temps sont trop occupés. Et il dit qu'il ne faut pas mentir, alors vous savez ce qu'il invente comme argument? Non, mais vous allez voir le ridicule quand même, je ne sais pas si adhérer à ce genre de truc, mais il dit oui, parce que voilà, si pendant que je suis sorti de la maison, j'ai rencontré ces gens-là, mon ami est sorti par une porte de derrière, dérobée, il est allé chez un autre ami se cacher, parce qu'il pensait qu'on allait maintenant le découvrir là, il voulait pas m'embarrasser. Alors moi, si je mens en disant qu'il est chez cet autre ami là-bas, ben je le livre. Donc, vraiment, je veux dire, la philosophie, c'est... On nous fait des coups comme ça, vous voyez, bon. Alors, non, Kant, il est en dessous de sa position, là, comme Lacan lui donne beaucoup de panache à sa position, il donne la même à Sade. Hein. L'universel, c'est une loi universelle, on n'a pas le droit de manquer. Vous voyez, voilà ce qu'il faut faire des normes de l'universel. Il faut les maintenir, mais il faut savoir s'en servir. C'est ça le désir. Si vous commencez à pinailler comme ça, bon, alors si je vais mentir, mais je vais mentir un peu, pas beaucoup, puis même je vais avoir des bonnes raisons positives de ne pas mentir, de mentir. Donc là, c'est pour Kant, c'est de ne pas mentir. Si vous cherchez des circonstances atténuantes, hein, des raisons pour ne pas mentir, vous êtes un lâche. C'est ça le surmoi, ça vous produit du surmoi. Mentez ou dites la vérité, faites quelque chose. Freud, il vous dit qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Donc il faut conserver les principes de la pensée. Mais ce sera toujours raté. Bon, mais c'est pas un sergent recruteur, il ne dit pas engagez-vous, comme on dit dans l'armée, engagez-vous. Non. Il dit engagez-vous dans ce que vous faites. Enfin, vous êtes impliqué dans ce que vous faites. Ça, c'est freudien, c'est pas kantien. C'est comme ça qu'on passe de la raison pratique de Kant et de Sade à Freud et à Lacan. Hein? Il faudrait quand même qu'on sache de quoi on parle. Bon. Donc vous voyez, ça c'est un grand embarras pour le paranoïaque. Parce que le paranoïaque, lui, il voudrait que tout soit forclusion, ça veut dire tout est réglé, tout est compris, hein, dans l'addition, pas d'appréciation de la clientèle. Donc, on ne doit pas avoir de problème ni de logique, ni des problèmes d'éthique pour le paranoïaque. C'est pas ce que c'est que l'éthique, le paranoïaque. Parce que l'éthique, c'est vraiment, contrairement à la morale, eh ben, c'est quelque chose qui ne vaut que pour. Quoi. Qu'est-ce que c'est l'éthique, justement, hein? C'est quand quelque chose est obligatoire, quand tout le monde dénonce son voisin parce qu'il est juif, parce que ça se fait à l'époque, même à Paris, c'est vu, hein, eh bien, il y a des types qui disent non. Moi, même si tout le monde le fait, vous voyez, je ne vais pas forcément faire comme tout le monde. Vous voyez. Quand tout le monde fait la farine ou le meunier, moi, non, je ne vais pas meunier la farine. Bon. Et voilà. Et puis quand il y a des choses qui sont donc obligatoires, on n'est pas obligé de les faire, et puis quand il y a des choses qui sont interdites, ben, il y a des types en France, justement, à la même époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est interdit de foutre des bombes sous les trains, dans les rails. Hein. Ben, il y en a qui l'ont fait. Aujourd'hui, on dit terroriste. Vous voyez, le degré psychotique auquel on est arrivé. Bon, je ne vais pas justifier le terrorisme. La terreur, c'est un problème politique essentiel. C'est la Révolution française, elle va justement à la terreur. Regardez la Révolution. Et je ne suis même pas de l'avis de Deleuze. Deleuze, il dit, les révolutions, il faut les faire quand même. On sait que ça finit mal, mais il faut les faire quand même. Ça m'étonne de Deleuze. Ça commence à prendre un peu de parfum kantien. Vous voyez ? Bon, il dit, il y a la révolution anglaise, regardez, Cromwell, tout ça. Il dit, les révolutions, c'est pas une raison de pas les faire. Bon, parce que ça tourne mal. Alors, ça fait dire à. Et puis, ils sont tous très embêtés, la Milner aussi, avec l'idée que la révolution, maintenant, il s'est moqué de la révolution en disant, de toute façon, c'est un tournant, ça tourne. La révolution, c'est celle des planètes. Il fait un lien entre Kepler et Galilée, et puis Marx et Lénine. C'est dans Radiophonisme. Mais il se moque pas du tout, là, parce que regardez, la révolution, je vous l'ai déjà dit, nous, on est dedans. C'est un tournant, la révolution. C'est pas qu'on fait la révolution, on est dedans. Ça tourne. Et Lacan, il s'identifie à Galilée par rapport à Kepler, quand il prend position, lui, de Lacan, par rapport à Freud. Et en même temps, il situe Lénine et Marx. Il dit, Lénine, c'est un passage à l'acte de Marx. C'est la tenue d'un discours qui est intenable du fait de jamais avoir été tenu et d'être impossible à tenir. Alors c'est intéressant, Badiou a même écrit un article dans Conditions, dans lequel il nous met au pied du mur de répondre à ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que Lacan dit ça dans Encore, il dit, hein, Marx, Lénine, Freud, Lacan. Qu'est-ce qu'ils disent, les psychanalystes, de ça? Ben moi, je ne suis pas devant du tout. Si Lacan dit que Lénine est un passage à l'acte de Marx, Marx est comme Kepler, il a découvert la trajectoire des planètes. Ça s'appelle le Capital. Et il a fait le manifeste du Parti communiste aussi. Et il a fait avec Engels. Mais il a fait surtout. Marx Kepler, c'est le Capital. C'est comme la trajectoire des planètes. Et Freud, il a découvert la trajectoire des planètes. Il les a écrits. Vous voyez, Freud, il dit comment il faut faire pour lire un rêve, pour lire des mots d'esprit, pour lire même la psychopathologie de la vie quotidienne. Et ben, Lacan, c'est un passage à l'acte de Freud. Puisque lui, Lacan, il vient, il rebrousse chemin, et de l'écriture de Freud, il revient à la parole, et il est dans l'acte. Parce que l'acte, c'est ce qui fait dire à Lacan, ça parle, alors que son ça parle, c'est évident, c'est un ça doit se lire, ça se lit, ça peut se lire, parce que c'est écrit. Mais c'est écrit juste que. C'est toute la question que se pose le masochiste, par exemple. Il ne s'en rend pas compte pour le masochiste quand il demande à la dame maman de lui donner des petits fouets. Hein, là, quand il met le petit bout du petit bout du petit doigt dans la machine infernale, les mecs, là, ils se mettent en nourrisson, puis bon, il faut leur donner la fessée, le biberon, et puis des coups de fouet. Ils ne se rendent pas compte parce Alors, est-ce que c'est Lacan qui l'invente, ou est-ce que c'est Freud qui l'invente, ou est-ce que c'est parce qu'ils s'inquiètent justement à ce qu'ils disent, les mecs? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ils se posent la question justement, est-ce que le coup de fouet, la balafre, c'est visible ou c'est pas visible? Est-ce que c'est un trait unaire? Parce qu'un trait unaire, c'est pas une lettre. C'est quelque chose qui pourra peut-être devenir une lettre si ça prend corps dans le lettre, dans le lien social. Mais une écriture qui n'est pas liée à un discours, par un discours, dans un discours, hein, c'est pas une écriture. C'est du trait unaire. Alors là, vous voyez, intuition, qu'est-ce que c'est que le trait unaire? Le trait unaire, c'est que le sujet, avec le trauma, pof, il découvre qu'il y a des choses visibles et qui ne sont pas écrites. Il se rend compte que les parents, ils ne s'entendent pas crier, et que c'est visible, ça donne naissance à cette dimension du phallus, de la vérité, justement, qui est aliénante. Hein? Et donc, les formalistes, ils sont pas, c'est pas des binaristes qui fait qu'ils sont réductionnistes, les mathématiciens modernes ou les gens qui font de l'informatique. C'est comment est-ce qu'on traite le 1 dans le 2, et comment on traite le 2 et le 4 et le 3. Voilà, c'est là-dedans qu'il va falloir rentrer. Et ce qui se passe avec le 2 des logiciens, 1-2, c'est quand même que ces deux couples identiques, mais vous voyez, le trait unaire, c'est de la visibilité, il y a un décalage, ça va donner le nom du père, c'est comme la droite et la gauche. Et la droite et la gauche, c'est comme vrai et faux, après tout, c'est parfaitement réversible. Ben, pas du tout. Dans la langue, ils éviteraient, vous allez voir, c'est pas vrai de tout le monde, mais il y a quand même plein de métaphores, plein de figures du discours, plein de figures dans les langues comme. Que ce soit en italien, en espagnol, ou en français, ou même en anglais, vous avez quoi? Ben, c'est ce qui fait dire à Lacan que les intellectuels de gauche sont des débiles et que les intellectuels de droite des canailles. Parce que la langue privilégie la droite contre la gauche. Alors, ça, c'est les canailles, les mecs qui disent nous on est de droite donc on est légitime, mais ce qu'on dit est sûrement bien mieux, puisque regardez, la langue elle dit que la droite c'est mieux. C'est des escrocs. Comment ils peuvent tirer la couverture à eux comme ça? Et surtout qu'ils se permettent de dire en plus plein de bêtises. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Et les mecs de gauche, ils sont des débiles parce qu'ils doivent dire des choses, ils peuvent se tuer à dire même des choses extrêmement sensées. De toute façon, s'ils veulent prouver que la gauche c'est aussi bien que la droite, ils n'y arriveront pas parce que de toute façon, regardez ce qui se passe. Ils rament contre le courant. Quel courant? Celui de la langue. Et ça, c'est le deuxième temps. Les phonèmes, c'est des couples d'opposition sans valeur intrinsèque, il n'y a aucune valeur, c'est des couples d'opposition, ça s'oppose. Vrai-faux, droite-gauche, ça devrait être identique pour le psychotique. Et puis justement, il y a un décalage, il y a un privilège. La parole, avec le phallus, la fonction phallique, elle introduit un différentiel, une dégradation, ça va donner fonction phallique et castration. Mais c'est quand même à l'appréciation de la clientèle. C'est compris dans la structure du phallus. Qu'est-ce que c'est la fonction phallus? La fonction phallique, je vous le dis, c'est la destruction du nœud. Du nœud, c'est le fait de ne pas suffisamment réfléchir à ce que c'est que cette identité-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité. C'est tout con. En termes de vrai et de faux, ça s'appelle l'affirmation. Parce que la négation, c'est quelque chose qui est comme ça. En logique de Boole, ça s'écrit x plus 1. Vous voyez? Donc avec la négation, vous avez plus 1. La différence. Il y a quelque chose qui est écrit des deux côtés en plus de x. Tandis que ici, vous avez avec l'identité, vous avez i ici, puis ici, il n'y a rien. Voilà. Et bien du coup, ça va créer quelque chose qui va être le différentiel qui donne le préliminaire, l'intuition, ça va jusque au nom du Père. Le nom du Père, il fait des choses banales et exceptionnelles. Si vous ne voyez pas que c'est crétin de dire qu'on est de gauche, même si on a des très bonnes idées, et c'est une canaille de dire qu'on est droite, parce que c'est vouloir soit lutter contre le courant, soit tirer la couverture à soi. Et c'est pas des insultes qu'on a quand on dit des trucs comme ça. Il se marre, il tape folle, il fait qu'à enchaîner. Et ne croyez pas, Lacan, il est pas, il parle toujours sérieusement, même quand il rigole. Il rigole, hein. C'est juste un peu pour ascagasser les mecs de droite ou de gauche. Et lui, il dit, moi, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, mais il a quand même préféré avoir plein de gens. Regardez ce qu'il écrit à Winnicott, c'est tellement joli, c'est tellement charmant. La lettre à Winnicott, quand Laurence Bataille, il dit, ma fille, elle a aidé les Algériens à porter des valises là, pendant la guerre d'Algérie. Ils l'ont mis en prison. On est très fiers, ma femme et moi, on est très fiers. Elle est la petite roquette. Et en plus, Laurence, qu'est-ce qu'elle a fait avec sa demi-sœur Judith? Sa demi-sœur Judith, c'est comme dans Monte Cristo. Elle lui a porté une lime pour limer les barreaux dans un morceau de pain. Et elle s'est évadée. Même que Dumas, il est obligé de lui courir après dans tout Paris pour dire « Maintenant, il faut retourner à la prison, on va vous sortir de là, vous inquiétez pas. » Bon, c'est des gens sympas. La famille, quand ils n'étaient pas trop cons, rendu con par le vieux qui devient vieux, alors la vieillesse de l'ancêtre, je vous ai dit, c'est comme Picasso, ça les rend malades, les familles. C'est terrible, c'est dommage. Moi, je trouve que Laurence Bataille et Julie Pinière, c'était marrant quand même, non? Et c'était plus que marrant, c'était qu'elle avait vraiment, elle s'était engagée du côté de la révolution algérienne. C'est tout à fait digne. Et là, quand il écrit ça à Winnicott, je ne sais pas comment Winnicott a pris la lettre. Dans la psychanalyse, on ne trompe pas. Il paraît qu'on ne doit pas dire ça. Lui dit, ma femme et moi, on est très contents que cette fille est en prison. C'est pas là. Bon. Mais Lacan, ça n'empêche pas de dire, moi je ne suis pas de gauche, mais c'est vrai qu'il est entouré plutôt par des gens plutôt progressistes. Lacan, il dit, je suis progressiste. Et c'est ça qui nous intéresse. Moi, je pense que c'est la raison, le discours de Freud est progressiste. Il dit que Freud était humanitariste. Donc le discours analytique tel que Lacan le conçoit, il est progressiste. Alors ça pose un problème, qu'est-ce que c'est qu'un progrès? Et c'est très antinomique, le progrès.
Non, parce qu'il y a quand même plein d'endroits où il dit qu'il n'est pas en faveur du progrès.
Oui, parce que le progrès en général, alors, c'est à double tranchant, hein. Ça se retourne comme un gant. C'est encore comme quand c'est sale, ça, c'est le progrès. Bon, alors il faut dire quel progrès, tu vois, pour avancer à partir de ton objection qui est très juste. Moi, je pense que tous les gens qui sont là, progrès, vous savez, utiliser la théorie d'Avidson pour vendre des téléphones portables, ça me fait rire. Hein. La théorie de la communication, ça s'appelle en logique. C'est devenu dans la... Les managers, ils sont passionnés de logique, les publicistes aussi, parce qu'ils, et même de psychanalyse, puisqu'ils cherchent dans la psychanalyse ou dans la logique, ils cherchent les figures pour faire des slogans. Hein, c'est un travail énorme qu'on doit à la psychanalyse et au progrès justement de la lecture et de l'écriture, qu'on peut vous dire pour vous vanter un objet de propagande là, dans la publicité, on appelle ça publicité mais c'est de la propagande. Pour vanter un objet de propagande, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est dégueulasse, par exemple. On a fait ce progrès là, vous savez bien, la publicité, ça peut même devenir trash. C'est ça, c'est les voies de la dialectique. Voilà, bon, qu'est-ce que c'est le progrès? Le progrès, moi je vois qu'un seul progrès, c'est quand on arrive à bien écrire ce qui ne s'écrit pas bien dans le symptôme. Quand on a bien écrit, quand c'est bien écrit, quand c'est écrit, ça cesse. Voilà, ça c'est un progrès. Et ça se mime pas. Ça s'invente pas. Ça s'invente, mais ça se. On fait pas. C'est pas un semblant facile. C'est du semblant, bien sûr, mais. Justement, voilà, qu'est-ce que c'est que lire, qu'est-ce que c'est qu'écrire, comment ça tient? Et c'est ça qui nous intéresse dans ces histoires-là. Vous voyez? Donc regardez comme quoi c'est difficile de rentrer dans un discours où on parle de l'écriture et de la lecture, puisque le nœud trèfle, il se retourne par dualité en un trèfle, qui est une présentation Lacan du trèfle. Ça c'est le trèfle à trois, le trois trèfles, présenté comme un Lacan. Présenté comme un Lacan. Et Lacan, c'est dans le dos du trèfle. C'est le dual. Qu'est-ce que c'est la dualité? Bon, Ben voilà, c'est des choses comme ça que petit à petit, il faut rentrer dans ce type d'exercice pour s'apercevoir que si on n'a pas de tenue, c'est un terrain glissant, tellement glissant qu'on peut dire n'importe quoi et que tout le monde s'en prive pas d'ailleurs, on dit plein de conneries. Comment être dans un terrain parfaitement glissant, hein, et arriver à trouver la tenue qui fait qu'on passe entre les gouttes et que là, c'est très étroit comme passage. Et justement, c'est ce qui fait un problème avec Freud. Il ne faut pas se prononcer trop vite, voilà. Moi, je reproche à personne de patauger dans le machin. Mais qu'ils ne viennent pas jouer des prétentions en me disant « Moi, je vais vous dire, parce que j'ai une grande gueule, que je sais ce que c'est. » Et moi, je suis plutôt d'avis, il faut mieux partir en Argentine. Pour ne pas faire le gourou, vous voyez. Moi, j'ai vu ça avec Souris, j'ai vu Souris qui était emmerdé par ça. Dès qu'il ouvrait la bouche, c'était comme s'il écrivait du Deleuze ou même du Kant ou même du Aristote. Le pauvre Souris, il en était étranglé. Lacan l'avait cité, alors Souris, il était devenu un chaman. Et moi, quand Lacan il a dit, il y a un nommé Vapro qui, pof, ça y est, je suis devenu un chaman, vous comprenez? Donc la question, il faut vite se réfugier dans un trou. Comme je ne suis pas un lapin, ma libido n'est pas faite sans porte, donc je ne suis pas comme un animal. Moi, ce que j'aime, c'est la pudeur. Donc voilà. Et c'est très embêtant de parler sérieusement. Moi, je suis beaucoup plus prudent, mais j'avance. Parce qu'il y en a d'autres, ils sont pas prudents, et eux, ils me disent que oh là là, c'est dangereux, c'est ouh là là, c'est. Faut pas faire ça. Mais écoutez, bien sûr qu'il faut le faire, mais le problème c'est qu'il faut le faire avec prudence. Il faut pas. Parce qu'il y en a quelques-uns, ils aiment bien faire un peu petit chef. Ils aiment faire chaman. Alors, il y a des chamans, comme beaucoup de mecs, ils n'ont pas le talent des femmes pour faire chaman. Hein, Dolto, elle était chamane, elle dit aussi beaucoup de bêtises. Hein, ce qu'elle dit sur la sécurité féminine, alors là, c'est un comble. D'abord, il va se trouver par terre de rire, ou de pleurs, parce que ce que dit Dolto de la sécurité féminine, vraiment. Elle a fait un livre, on a publié. Et quand elle l'a présenté chez Pivot, elle a raconté l'anecdote que le jour où elle a tenu ses propos sur la sexualité féminine à un colloque de psychanalyse, en descendant de la tribune, elle a rencontré Lacan, elle l'a croisé. Et elle répète, très fière, ce que Lacan lui a dit à ce moment-là. Il est terrible, Lacan, dans ses formules. Hein. Il lui a dit oh, toi, alors, t'es gonflé. Elle a pris ça pour un compliment. C'est amusant parce qu'il n'y a rien de plus équivoque que de dire quelqu'un s'est gonflé. Alors elle le répète fièrement, oui. Elle est gonflée. Bon. Alors, mais Dolto, c'était un chaman. Elle avait un talent certain de parole pour parler avec les gens qui venaient la voir. Et c'est pas de la psychanalyse, c'est un chaman. C'est du chamanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement. Voilà. C'est ça qui ennuie les. Moi, je connais des doltoïens, parmi ceux même qu'on fait procès à Lacan à la fin de l'école, ils sont très embêtés avec Dolto. Ils admirent Dolto, tout ça, mais qu'est-ce qu'on. Alors, vous me direz, ce n'est pas très gênant, puisque ceux qui admirent Lacan, ils ne se font pas mieux. Donc, tout le monde est. Lacan-Dolto, on est traumatisé par le malentendu des parents. C'est le trauma, c'est papa-maman, c'est la situation oedipienne des lacaniens. Papa-maman nous traumatise. Bon, alors, ben, c'est pas. Le traumatisme, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour commencer. Alors, ce que je voudrais ajouter avant que je m'en aille, parce que je vais m'en aller pour un moment, je reprendrai ce cours seulement en janvier, donc ça va. Longue période, eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a la même opération entre ça et ça, et entre ça et ça, il y a la même chose qui se produit entre le trèfle et le Lacan, et entre le Lacan et Saint-Lacan. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des endroits où ça se voit mieux, et c'est ensuite de voir comment est-ce qu'on pourrait le voir de l'autre côté. Regardez, ici ça se voit bien, qu'est-ce qu'on fait du Borroméen ici? Vous avez qu'à les numéroter, vous leur mettez des lettres, vous les nommez avec une lettre, vous les colorez avec une lettre, vous les labellisez. Allez. Vous avez ici, regardez, pourquoi un borroméen, c'est borroméen? Pourquoi quand je retire un rond là-dedans, pourquoi est-ce que ça, les deux autres sont libres? Là, regardez, c'est parce qu'il n'y a pas d'enlacement. Les enlacements, c'est quand on regarde des croisements qui ne sont pas des croisements, il n'y a pas de croisement propre, ce n'est pas des croisements d'un fil avec lui-même, c'est toujours des croisements de deux fils différents. Et il faut regarder les croisements des deux mêmes fils. C'est ce que j'explique avec le cordien. Ça s'appelle un mouvement cordien. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici, je vais appeler celui-là A. Qu'est-ce lequel je vais appeler A'? Regardez, E. Ici, c'est A'. Pourquoi? Parce que c'est ces deux ronds-là qui se croisent là. Ben c'est les deux mêmes qui se croisent ici. Et si ça, je l'appelle B, ben c'est celui-là que j'appellerai B'. OK? Et si celui-là, je l'appelle C, celui-là, je l'appelle C'. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que vous commenciez à regarder qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est dessiné, qu'est-ce qui est mis sur le métier. Que ce soit fait avec de la ficelle, c'est un modèle physique, que ce soit fait avec des crobards, c'est pas une écriture, hein, c'est peut-être du trunaire. Je suis comme le maso, là, à me dire, est-ce que c'est lisible ou pas? Ça, c'est une bonne question freudienne. Vous voyez, au lieu de dire que c'est... fait pour comprendre, que c'est de la soupe, que c'est pas bien, que c'est la cabale, que c'est mystérieux, que c'est de l'astrologie, de l'astronomie. Bon, c'est pas la peine de vous poser toutes ces questions. La seule question sérieuse, c'est, voilà, c'est dessiné, c'est censé être de la ficelle, c'est pas plus con que le nœud trèfle, c'est pas plus con que de dire, voilà, ça c'est la droite infinie, parce que pour les Grecs, la droite infinie, vous voyez, c'est le trait qui est entre vos deux tables, là, vous voyez. La droite, c'est un concis dans une planche de bois. C'est un vide. La droite, c'est un vide, et ça s'écrit comme ça. Alors pourquoi un nœud qui est un truc qui coince, ça ne pourrait pas s'écrire comme ça? Je dis s'écrire, bon. Ben, le géomètre, il fait de la géométrie. Regardez comment Galilée a inventé le microscope et le télescope. Hein. C'est de la géométrie, ça s'appelle l'optique géométrique. Et il prend des droites infinies, et puis... Il en a inventé la perspective linéaire, on a fait de la peinture. Vous voyez bien que les rayons lumineux ou les traits de scie dans la planche, ça c'est des modèles physiques. Et puis une droite, on la dessine comme ça. Moi j'ai connu des gens qui ne pouvaient pas faire de mathématiques parce qu'ils disaient non, ça c'est pas une droite parce que là, il y a de l'épaisseur, il y a de la craie, l'épaisseur, vous voyez. Il y a l'épée et la seule. C'est beaucoup pour un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette droite? Ben, vous voyez bien que ce n'est pas une droite comme le trait de scie, ce n'est pas une droite comme le rayon lumineux, mais ça écrit très bien la droite. Avec des crobards comme ça, vous pouvez faire de la géométrie. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez regarder... C'est une erreur complètement... C'est une erreur énorme. Ben, je crois qu'il faut regarder les choses avec un microscope électronique. Bien sûr, si vous regardez un microscope électronique, ça, c'est de la craie sur le tableau. Alors, vous voyez, ça c'est l'absence de métaphore. Hein. C'est quand même la connerie du psychotique. Bon. Et ça nous tient tous. À quel moment on s'arrête? Regardez, vous voyez, le principe d'incertitude des adverbes, vous avez bien vu que les sauvages dont on se moque depuis Christophe Colomb, non, parce qu'on n'a pas inventé l'art de la photographie, mais les colonialistes au 19e qui se moquent des sauvages au début du 20e, les Indiens qui ne veulent pas qu'on les prenne en photo parce qu'on prend quelque chose d'eux en photo. Bon. Ils sont, bien sûr que c'est con, puisque la photo, au niveau macroscopique du corps, le prélèvement d'énergie et de lumière que va absorber la plaque photographique, ça ne fait pas un grave défaut. Bon. Mais regardez le principe d'incertitude des Heisenberg, le fait que la science, elle sera toujours incomplète, c'est quand même que, au niveau d'un éclatement de molécules, si vous observez dans un accélérateur d'électrons, vous observez un phénomène à la hauteur moléculaire ou même électronique, hein, ben la photo que vous prenez, elle est du même ordre que le phénomène que vous observez. Donc, du coup, Heisenberg, il peut vous écrire qu'en mécanique ondulatoire, on ne saura jamais où est la particule 2 minutes après. Parce que où on connaît la place, le lieu, sa position, on ne connaît pas sa vitesse. Où on connaît sa vitesse, ça, il le démontre. Et à ce moment-là, on ne sait pas où elle est. Donc, vous voyez, s'il y avait un déterminisme en physique, ça ferait aller Einstein. Il dit Dieu, non, je ne peux pas croire, Dieu joue au dé avec nous, c'est pas possible. Mais il y a un indéterminisme en physique. Et nous, on est en train de rentrer lentement, là, lentement, parce que ça n'intéresse plus personne, vu que tout le monde s'intéresse qu'à la psychose, à être psychotique pour tuer, massacrer les autres. Alors, du coup, vous voyez, je parle des banquiers, là. Ils sont en train de se casser la gueule. C'est pas pour vous. Mais enfin, rendez-vous compte. C'est un truc qu'on rentre lentement dans la logique de l'incomplétude. Bon, Le Goffet, il a fait un très bon petit livre sur l'incomplétude du symbolique. Le problème, c'est que c'est un peu au-dessus de ses forces. Parce qu'au moment où ça devient intéressant, où il aborde la question de la théorie des fondements, il le cite, il dit ça donne lieu à des chaires de philosophie, ça ne nous intéresse plus. Mais pas du tout, ça nous intéresse tout à fait. Lacan en parle, il lit Kreisel et Krivine en 67, qui sont à l'avant-garde de la théorie des fondements. Le Kreisel-Krivine, il s'appelle Théorie des modèles, il est là. Et vous voyez que Lacan le cite et s'en sert pour faire les formules de la sexuation, dans les trois années qui vont suivre après les quatre discours. Il commence à traiter ça d'un autre à l'autre. C'est là qu'il parle de théorie des ensembles, de Krivine, parce qu'il est au courant des travaux de Krivine. Il le lit et il discute, il écrit à Kreisel. Moi, j'ai des lettres de Kreisel à Krivine et de Lacan de Kreisel à Lacan et de Lacan à Kreisel. Bon. Alors, il faut arriver à faire à situer des registres comme ça. C'est comme la musique, ça, la lecture. C'est pas seulement parce que c'est dans la parole, c'est quelque chose d'auditif qu'ils ont fait des analogies avec la musique. Il faut pas faire des analogies. Il faut voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle, en musique, qui s'appelle composition.